Le débat du jour. Adrien Delgrange.
Elle n'a jamais été aussi inquiète pour la justice. Les mots de Chantal Arens, la magistrate la plus gradée de France. Vendredi dernier, le 5 juin, au Palais de l'Élysée, face à Emmanuel Macron, la première présidente de la Cour de cassation parle au chef de l'État d'un système à bout de souffle et d'une désespérance collective. Le lendemain, le président de la République annonce des états généraux de la justice prévus en septembre prochain. C'est donc dans un calendrier serré, à moins d'un an de l'élection présidentielle, qu'Emmanuel Macron décide d'ouvrir un dossier délicat, alors que la magistrature est déstabilisée par les récentes critiques, notamment venues des policiers. La remise en question de l'institution judiciaire est-elle menée sous la contrainte? C'est le débat du jour.
RFI.
Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Trois invités pour en débattre ce soir. Isabelle Gorce, bonsoir.
Bonsoir.
Première présidente de la Cour d'appel de Bordeaux. Vous représentez aussi ici la Conférence nationale des premiers présidents de Cour d'appel en France. Katia Dubreuil, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente du syndicat de la magistrature. Et puis Didier Paris, bonsoir.
Bonsoir.
Député du département de la Côte d'Or, député LREM, membre de la commission des lois et ancien magistrat, notamment juge d'instruction pendant une dizaine d'années. Alors, ces états généraux de la justice, le rendez-vous doit associer, nous dit-on, magistrats, greffiers, personnels pénitentiaires, policiers, avocats, notaires, des citoyens, des élus. Ils seront également conviés. Le programme reste tout de même à définir. Didier Paris, vous êtes un député de la majorité. Quel est le but d'Emmanuel Macron en organisant ces états généraux de la justice?
On va devoir, je pense, l'affiner, le but d'Emmanuel Macron. Mais ce qui me paraît évident, c'est qu'il est toujours important qu'on parle de justice. C'est toujours un bon moment de parler de justice. Il faut le faire de manière le plus dépassionnée possible, le plus objectif possible, et si possible, en s'écartant simplement de la justice comme étant un des points de clivage avec la police, ou en s'écartant de la stricte analyse des faits divers. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui interpellent la justice aujourd'hui, quelle est sa place dans notre société, comment elle doit encore évoluer, quels sont les problèmes, y compris de moyens, qu'elle peut rencontrer. Je suis bien placé pour savoir à quel point il y a une forme d'inflation législative dont il faut que nous parlions pour essayer de, si je peux me permettre, de calmer le jeu. Donc moi, j'ai un certain nombre d'espoir dans ces rencontres et de capacité de discussion avec, et vous l'avez dit en présentant le sujet, avec de très nombreux interlocuteurs du monde judiciaire.
Quant au syndicat de la magistrature représenté ici par Katia Dubreuil, il est plus sceptique dans cette initiative. Vous reprochez davantage au président de privilégier les questions dites de sécurité.
Ce qui est certain, c'est que quand les deux présidents des formations du Conseil supérieur de la magistrature ont écrit au président de la République, c'était pour dénoncer ou pour s'inquiéter des attaques sans précédent contre la justice. Et le communiqué de presse de l'Élysée ne parle quasiment pas de ce sujet. Le président de la République rappelle en passant qu'il est attaché à l'indépendance de la justice, à la séparation des pouvoirs. Mais pour le reste, c'est un communiqué sur la sécurité. Et d'ailleurs, il présente l'entretien qu'il a eu avec les deux chefs de cour comme un entretien sur les attentes de nos concitoyens par rapport à la sécurité. C'est quand même pas du tout le sujet initial et il n'y a eu aucun mot du président de la République pour condamner un certain nombre d'attaques qui sont complètement déconnectées de la réalité du fonctionnement de la justice, qui sont faites dans un contexte de surenchère d'un certain populisme pré-électoral, avant les élections présidentielles. Et ce sont des surenchères qui déstabilisent l'institution judiciaire, mais par-delà l'institution judiciaire, l'état de droit lui-même.
Vous partagez le constat de Katia Dubreuil, Isabelle Gorce?
Oui, alors il y a beaucoup de choses dans ce que dit Madame Dubreuil qui sont assez justes. Maintenant, la question c'est de savoir s'il faut ou pas que ces états généraux aient lieu. Nous en avons appelé l'organisation à la Conférence nationale des premiers présidents, puisque nous avons publié une tribune le 21 mai dernier. Pour demander justement des assises de la justice, des états généraux, pour débattre de à la fois ce qu'attendent désormais nos concitoyens et puis surtout pour réaffirmer les fondamentaux de la justice. La justice, c'est une garantie de l'état de droit et de la démocratie. La justice, si elle est indépendante, c'est une garantie pour nos concitoyens d'être jugés avec un procès équitable. Donc, il faut qu'on puisse réaffirmer les fondamentaux de la justice et puis discuter, débattre, ainsi que le dit M. Paris, de façon dépassionnée, à la fois de ce qu'on en attend et puis de ses moyens, parce que c'est vrai qu'ils sont insuffisants pour satisfaire l'ensemble des attentes de nos concitoyens. Nous aussi, magistrats et chefs de juridiction, nous sommes là de ces attaques outrancières, hein, de propos souvent infondés dont les magistrats font l'objet et de toutes ces attentes contradictoires qui s'expriment en direction de la justice.
Et on va en parler dans un instant, mais juste avant, le moment choisi de ces états généraux, difficile d'imaginer d'organiser ces états généraux à l'automne et qu'ils puissent déboucher sur des mesures législatives d'ampleur à seulement quelques mois de l'élection présidentielle, Didier Paris.
J'ai bien écouté les deux interventions précédentes. Au réel, je ne suis pas fondamentalement désaccord. C'est-à-dire qu'il faut sortir de la surenchère, c'est une occasion de le faire. Ce que j'aimerais, c'est qu'on ne juge pas avant et qu'on les mène et qu'on voit le résultat. Est-ce que c'est la bonne période? Sans doute pas, c'est jamais la bonne période, mais c'est toujours la bonne période. Encore une fois, il faut toujours pouvoir parler de justice. Et moi, je ne suis pas persuadé, contrairement à ce que vous venez de dire, que tout ça doit nécessairement trouver une traduction législative. C'est une de nos difficultés, me semble-t-il. Il y a eu énormément de choses de faites en matière législative sur le monde judiciaire. J'aurais presque tendance, mais je tire contre ma chapelle d'une certaine façon, mais j'aurais presque tendance à dire trop. On a trop tendance à faire des lois sans avoir vérifié l'application des précédentes. Et c'est un peu malheureusement le tribut payé à l'organisation politique du Parlement qui fait qu'on pousse beaucoup, chaque groupe politique ayant envie de mettre sa patte, si je puis me permettre, sur le monde judiciaire. Faut calmer le jeu. Il faut regarder quelle est la réalité des choses. Il y a une question de moyens, il n'y a aucun doute. Vous savez comme moi que jamais aucun gouvernement n'a mis autant de moyens sur la table au profit de la justice. J'ai regardé dans les chiffres, la dernière fois qu'on a un budget à plus de 8 milliards d'euros et à plus de 8% d'augmentation sur une année, c'est en 2002, ça commence à dater. Ce sera sans doute encore insuffisant. Il faut en parler, il faut voir quels sont les postes d'augmentation qui sont nécessaires, de magistrats sans doute, mais pas que. Le monde judiciaire doit évoluer, la numérisation doit évoluer, il y a beaucoup d'éléments qui sont à prendre en compte. Et je crois fondamentalement que ça mérite discussion sur un problème central, c'est que la justice doit être en capacité de répondre rapidement aux problématiques des citoyens, que ce soit la justice pénale, civile ou l'autre.
Sur la question des délais de la justice, Isabelle Gorce, au nom de la Conférence nationale des premiers présidents de cour d'appel, vous vouliez réagir?
Oui, je voulais juste ajouter que effectivement, il y a jamais de bon calendrier. Soit c'est trop tôt, soit c'est trop tard. Encore une fois, la justice, elle réclame un débat dépassionné. Le fait que nous rentrions dans une période de campagne électorale, à la limite, c'est peut-être même une bonne opportunité d'avoir un vrai débat démocratique sur ce que l'on attend de cette institution, et puis de débattre de ses mots, de sa lenteur, de sa complexité, de l'empilement des priorités, de ses problèmes de moyens, de l'insuffisance de ses moyens au regard des standards européens. Donc, c'est pas trop tard pour discuter de tout cela et justement de voir dans le débat démocratique quelles tournures vont prendre les positions des uns et des autres.
Alors si Didier Paris disait que ces états généraux ne devaient pas forcément déboucher sur de nouvelles lois, Katia Dubreuil, à quoi vont servir ces états généraux pour vous?
D'abord, je voulais quand même revenir sur ce qui a été dit par M. Paris. Il y a eu une prolifération de textes pendant la mandature qui ne venait pas des différents groupes politiques du Parlement, ils venaient du gouvernement. D'abord, il y a eu une première réforme de la justice votée en 2019 contre l'unanimité des organisations professionnelles et syndicales d'avocats, de fonctionnaires de greffe et de magistrats qui ont manifesté jusqu'au bout. Et il y a eu une grande manifestation à Paris encore en janvier 2019, juste avant l'adoption du texte. Et à aucun moment, ces organisations qui posent des diagnostics et qui font des propositions, parce qu'on n'est pas contre pour être contre, ont été écoutés par le gouvernement et très 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 à la marge par le Parlement. Donc ça, c'est un premier texte qui a été voté. Il y en a un deuxième qui est en train d'être voté, qui a l'initiative du garde des Sceaux actuel. Et puis, on a eu aussi beaucoup pendant cette mandature, ce phénomène de un fait divers ou un fait qui cause l'émotion, une loi. Donc on a eu deux lois sur les violences sexuelles, une en 2018, une autre actuellement. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, le gouvernement réagit en disant on va faire une loi, ça va être la baguette magique qui va permettre de répondre, et qui est un peu de l'affichage. Donc dire aujourd'hui on va écouter ce que veulent nous dire effectivement les professionnels, les citoyens, etc. Effectivement on est un peu sceptique parce que c'est absolument pas ce qui s'est passé pendant les quatre premières années. Ce que je voudrais dire par ailleurs, c'est que nous n'avions pas attendu effectivement l'annonce de ces états généraux. Nous, organisation syndicale et professionnelle de magistrats, d'avocats et de greffiers, pour préparer un événement qui va avoir lieu le 29 juin, nous avons proposons à tous les citoyens que cela intéresse de venir pousser la porte des juridictions, la porte des tribunaux. Alors chaque tribunal pourra communiquer localement sur les horaires d'ouverture pour que les professionnels de justice puissent échanger avec les citoyens, répondre à leurs questionnements, parce qu'il nous paraît très important actuellement, les citoyens ils entendent plein de choses, souvent des choses tronquées, des choses fausses sur le fonctionnement de la justice, et nous les invitons à venir se rendre compte par eux-mêmes pour pouvoir effectivement dans le débat démocratique reprendre la main sur l'information qui leur est donnée et en toute connaissance de cause poser effectivement leur regard sur la justice.
Et de rappeler que notre justice en France est rendue de manière publique. Didier Paris, la justice française souffre-t-elle d'un empilement des lois et donc d'une difficulté à les appliquer ?
Oui, sans aucun doute, mais je voulais juste revenir sur ce que disait Madame Dubreuil. Moi, je suis favorable à une journée porte ouverte, hein. Bien sûr, le 29 juin, le 30 juin, le 1er juillet, quand vous voulez. Mais la justice, elle a besoin de temps long, elle a besoin de réflexion, elle a besoin de poser les choses. Il est toujours nécessaire d'avoir un contact avec les citoyens, je pense que c'est pour autant pas suffisant. Et ce que le président de la République propose, encore une fois, on verra, ne portons pas l'opprobre avant de savoir comment les choses vont se dérouler, mais ce que le président de la République propose me paraît aller dans le bon sens. Ensuite, moi j'ai été rapporteur de quasiment tous les textes de justice à l'Assemblée nationale, y compris d'une commission d'enquête sur l'indépendance de la justice. D'ailleurs, pour arriver à la conclusion que nous avons une justice de qualité et dont nous n'avons absolument pas à rougir. Et il faut plutôt porter les choses positives d'une certaine façon. Mais quand même, j'ai bien vu que nous sommes allés... Alors, c'est pas toujours bien, hein. Moi je le reconnais volontiers, mais nous sommes allés au fond des choses, nous avons pris considération d'opinions souvent divergentes. C'est plus difficile de prendre considération d'opinions quand elles sont systématiquement en opposition. Mais pour autant, on a tenté de faire notre boulot du mieux possible. Et je me souviens quand même des discussions avec Nicole Belloubet qui, en conscience, a tout fait pour faire évoluer notre système judiciaire, mais qui n'était pas entendu. Il y a un moment, il faut aussi être en capacité de se comprendre les uns les autres. Je dis bien les uns les autres, hein, là, je ne mets pas la balle dans un seul camp, évidemment. Et c'est encore le cas avec Éric Dupond-Moretti aujourd'hui, à condition que le dialogue existe. Pour dialoguer, il faut être deux.
Voilà. Katia Dubreuil, vous vouliez réagir ?
Écoutez, pour ce qui concerne la loi de 2019, nous l'avons refusée parce qu'il nous semblait qu'elle n'allait pas dans le bon sens. Et ce n'était pas seulement l'avis des magistrats, c'était l'avis des avocats et des organisations de fonctionnaires de greffe. Tout simplement parce que pour nous, on est en train d'essayer de rationaliser le fonctionnement de la justice pour qu'elle réponde, qu'elle traite les stocks et les flux, et non plus en faisant une œuvre de justice dans laquelle on a une collégialité, plusieurs magistrats qui réfléchissent ensemble pour pouvoir prendre des décisions de qualité, un rôle à l'audience avec des débats contradictoires. Et tout ce qui était dans la loi, c'était une façon de pouvoir rendre plus vite la justice, fermer aussi les robinets, c'est-à-dire rendre plus difficile l'accès à la justice, notamment en fusionnant les tribunaux d'instance, qui étaient la justice de proximité par excellence avec les tribunaux d'instance. Donc toutes ces réformes-là qui vont effectivement dans un sens pour nous gestionnaires, nous les avons combattues. Donc, nous avons une opposition de fond et je crois que pour l'ensemble des professionnels qui œuvrent pour la justice, les avocats, les magistrats, les fonctionnaires de greffe, pour nous, c'est une perte de sens de nos fonctions parce qu'on ne rend plus la justice correctement, ce n'est plus un service public de qualité, donc c'est la raison de notre opposition frontale à ce texte-là. Après, nous avons toujours gardé la porte ouverte au dialogue et nous avons argumenté, si vous voulez, cette opposition. Ce n'est pas une opposition pour l'opposition, contrairement à ce que cherche à renvoyer M. Paris dans son propos, ce n'est pas le cas.
Katia Dubreuil, présidente du syndicat de la magistrature. Pour vous, Isabelle Gorce, l'organisation de ces états généraux de la justice en France, est-ce aussi pour répondre à la pression exercée récemment par les policiers sur la magistrature?
Alors, je ne peux pas vous dire si c'est une réponse à la pression exercée sur la magistrature. En tout cas, ces états généraux, ils se situent dans un contexte incontestablement, qui a été relevé par à la fois les organisations professionnelles, les chefs de juridiction et puis les deux plus hauts magistrats de France. Ce contexte, il est que nous subissons des critiques incessantes dans un contexte où nous-mêmes nous sommes en prise avec des difficultés matérielles, c'est vrai, ce que dit Madame Dubreuil est juste, les problèmes de moyens sont réels. Même si les magistrats, les greffiers, les fonctionnaires de justice sont des gens extrêmement dévoués qui œuvrent chaque jour avec vraiment beaucoup de sincérité dans l'exercice de leurs fonctions, malgré tout, ils rencontrent des difficultés. Ces critiques, parfois, comme je l'ai dit tout à l'heure, outrancières, mal fondées, sur le laxisme de la justice,
D'où vient ce malaise, d'après vous, dans ces rapports entre police et justice ?
Alors moi je dois dire que les relations entre la police et la justice, les relations quotidiennes qui existent bien sûr entre la police et la justice sont de très bonne qualité, heureusement pour l'ensemble de la population et heureusement pour nos institutions. Qu'il y ait des moments, je dirais, un peu éruptifs d'exaspération ou de grandes émotions, ce que l'on peut comprendre à la fois parce que c'est vrai que les policiers comme les gendarmes sont exposés quand même à beaucoup d'actes de violence, ils payent de leur vie aussi notre sécurité, donc on peut comprendre cette émotion que vivent aussi d'autres types de victimes. Maintenant, cette émotion ne justifie pas, notamment, par des organisations professionnelles, des propos qui ne visent qu'à jeter les corps professionnels les uns contre les autres, alors qu'on a des vrais sujets à traiter, la violence, l'aggravation des actes de délinquance, et puis les policiers comme nous, des questions de moyens. Nous nous rejoignons sur ces questions.
On va y venir sur les moyens. Et Didier Paris, qu'est-ce qui ne va pas entre ces deux institutions, police-justice?
Moi, j'essaie de prendre un peu de distance. Déjà, je déplore, comme vous, les critiques qui ont pu être portées. Je les déplore, il n'y a aucun doute. L'institution judiciaire doit impérativement être respectée, c'est l'honneur de notre République et c'est un fondement de notre République. Donc, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Et je relève quand même que je rejoins ce que dit Madame la Première Présidente d'une certaine façon. Je ne suis pas du tout persuadé que ce soit une critique générale. La critique est infondée, mais elle n'est pas générale. Regardez la manière dont les choses se sont déroulées. Vous avez quelques syndicalistes qui l'ont exprimé, qui n'ont d'ailleurs pas été nécessairement aussi bien suivis que ça par leurs propres troupes. Il faut aussi reconnaître qu'on a un monde policier, j'y associe les gendarmes évidemment, les forces de sécurité en général, qui sont elles aussi confrontées à une tension générale de notre société. Tension générale, le nombre d'agressions, que ce soit pendant les manifestations avec les Black Blocs ou le nombre d'agressions dont les policiers sont eux-mêmes victimes. Souvenez-vous, très récemment encore Rambouillet, fait cette tension-là. Et donc on a un monde en tension qui perd un peu de sens. Et s'agissant du monde police-justice, j'ai le sentiment que c'est encore exacerbé par la difficulté d'exercice de la police judiciaire, en particulier de celles et ceux qui font la police judiciaire, parce qu'on a, c'est le résultat de notre état de droit, et il faut le reconnaître et l'accepter comme tel, mais quand même des lourdeurs procédurales. Moi, je vois bien dans les multiples auditions auxquelles j'ai participé ou que j'ai dirigé, à quel point on a une espèce de fuite de ce qui fait le lien direct entre justice et police, c'est la police judiciaire. et de moins en moins d'OPJ, de moins en moins de gens qui veulent se diriger vers cette fonction-là, qui est difficile, qui entraîne la critique, et ainsi de suite. Donc moi, je crois fondamentalement que les États généraux de la justice doivent nous faire sortir de cette situation qui n'a pas lieu d'être, qui est infondée, comme ça a été dit. Il n'y a pas de laxisme de la justice. Il n'y a pas de, policiers qui ne sont pas suivis.
Mais je vais vous faire écouter la parole justement d'un policier, car il y a eu cette manifestation un peu partout en France et notamment devant l'Assemblée nationale à Paris. C'était le 19 mai dernier, qui faisait suite au décès du policier Éric Masson à Avignon. Écoutez Grégory Joron, il est secrétaire général délégué du syndicat d'unité SGP. Et c'était à Paris, au pied de l'Assemblée nationale, devant des milliers de policiers.
Hors de question ici de faire le mauvais procès de la justice, exsangue et en sous-effectif. Nous posons simplement le constat du chemin emprunté par notre société au travers de la justice depuis une trentaine d'années. L'individualisation exacerbée de la peine, l'empilage des mesures alternatives engendrant l'érosion de celle-ci jusqu'à les vider de son sens, jusqu'à les vider de pédagogie, de toute notion de punition, voire de réparation.
Grégory Joron, le secrétaire général délégué du syndicat d'unité SGP, sur la question des moyens pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Katia Dubreuil, là, j'essaye de tirer des parallèles entre vous et les policiers. Vous dites la même chose.
Oui, alors là, c'est pas vraiment ce qu'on a entendu, tout à fait ce qu'on a entendu quand même dans le propos qui vient d'être entendu. Moi, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que effectivement, je partage ce qui a été dit précédemment, entre les enquêteurs qui travaillent avec la justice pour monter les procédures, pour faire les enquêtes, et les magistrats qui travaillent avec eux quotidiennement, les magistrats du parquet et de l'instruction notamment, il n'y a pas du tout ce hiatus qu'on entend de manière exacerbée dans les médias. On a les mêmes contraintes et les mêmes objectifs, à savoir que dans un état de droit, on ne condamne pas sans preuve, on doit monter une procédure qui soit contradictoire, qui respecte un certain nombre de garanties des droits de la défense. Les enquêteurs partagent avec nous ces objectifs, ils les comprennent, et donc il n'y a absolument pas cette opposition. C'est au contraire, on travaille tout à fait dans le même sens, chacun dans son rôle. Ça, c'est quand même un premier point important. Et les paroles, je pense que ces enquêteurs ne sont pas tellement représentés, on ne les entend pas beaucoup, parce qu'ils n'ont pas forcément un syndicat qui les représente eux, et que par ailleurs, dans les paroles des syndicats de police, on a plutôt entendu ceux qui jetaient de l'huile sur le feu que ceux qui étaient plus mesurés, parce que finalement, c'était peut-être plus intéressant de mettre ça en avant.
Concernant notamment l'application des peines, expliquez-nous pourquoi les juges ne suivent pas ou rarement les peines maximales prévues par la loi en France.
Parce que c'est absolument pas le principe de suivre la peine maximale. Et c'est là où je rebondis sur l'intervention qu'on vient d'entendre. Quand on nous parle d'individualisation exacerbée, ça n'a aucun sens. Le principe, c'est effectivement l'individualisation de la peine. C'est un principe fondamental. Il y a un maximum prévu par la loi. Il est bien évident que, par exemple, un vol, c'est puni de 3 ans d'emprisonnement, et qu'une personne qui vole un paquet de chewing-gum dans un supermarché ne va pas être punie de 3 ans d'emprisonnement. Et heureusement. Et donc, on va prendre en compte non seulement le caractère rétributif de la peine, c'est-à-dire quelque chose de grave se passe, c'est normal qu'il y ait sanction. C'est le premier sens de la punition, tout à fait compréhensible par chacun. Mais aussi le sens de la réinsertion de la personne dans la société, de la prise en compte aussi de son histoire familiale, personnelle, de sa condition, de son emploi ou pas, etc. Et on va prononcer la peine aussi, sans oublier la fonction rétributive, mais aussi en fonction de la réinsertion, des meilleurs moyens pour amener la personne à la réinsertion. On sait que la peine d'emprisonnement, et notamment la peine d'emprisonnement courte, n'est pas favorable à la réinsertion. Donc on a, depuis des années dans notre droit, et c'est heureux, des dispositions qui disent qu'on doit essayer d'éviter la prison ferme quand c'est possible, notamment pour les courtes peines, et c'est ce que les magistrats mettent en application. Et ce n'est pas ça qui conduit à ce qu'il puisse y avoir de plus de délinquance, ou ce n'est pas parce que effectivement on applique ces principes qui sont équilibrés, que la délinquance augmente. Et d'ailleurs, en réalité, si on regarde les chiffres, la délinquance, il faut y regarder de plus près, n'augmente pas tant que ça. Par exemple, on parle d'explosion de violence. Si on regarde les chiffres des homicides sur les 40 dernières années, on voit qu'il y a deux fois moins d'homicides depuis 10 ans qu'il y en avait dans les années 80. Donc c'est tout ça, ce sont des choses qu'on ne manie pas en partant des faits réels, et ce sont des critiques qui finalement partent d'affirmations qui ne sont pas vérifiées et qui entretiennent des fantasmes et qui ne correspondent pas à la réalité de ce qu'est le fonctionnement de la justice.
Isabelle Gorce, pardon, première présidente de la Cour d'appel de Bordeaux.
Oui, je voudrais conforter les propos de Madame Dubreuil. On est passé de 36 900 personnes écrouées en 1980, dans l'année, à 82 300 en 2020. Donc, dans cette période-là, en 30, 40 ans, on a plus que doublé le nombre de personnes qui sont écrouées chaque année. Donc, dire que la justice est laxiste n'a strictement aucun sens. D'ailleurs, ça peut tout à fait être l'intérêt d'ailleurs des États généraux de resituer les choses dans leur vérité, la vérité des chiffres, et puis rappeler les fondamentaux, comme vient de le faire Madame Dubreuil, sur qu'est-ce que c'est que l'individualisation, à quoi ça sert, pourquoi on ne prononce pas des peines maximales pour tous les actes commis, quel est l'intérêt à la fois pour les victimes et pour les condamnés de ce système pénal qui a énormément de vertus. Ça n'est pas l'emprisonnement à tout craint qui résoudra aussi tous les problèmes de violence que nous connaissons.
Sur la non-application des peines, ce que dénoncent les policiers, vous leur répondez quoi ?
Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que d'abord le taux d'exécution des peines s'est considérablement amélioré ces dernières années. Aujourd'hui, les peines d'emprisonnement sont mises à exécution dans des délais qui sont extrêmement rapides. Beaucoup de peines d'emprisonnement sont prononcées dans des procédures rapides qui aboutissent à des mandats de dépôt à l'audience. Donc, je crois que tout cela est erroné. Et qu'il faut redonner aux chiffres leur vérité et avoir des débats à partir de choses qui sont à la fois vraies, mesurées et réfléchies. Et sortir d'une forme d'émotivité qui trompe tout le monde.
Didier Paris, député de la majorité.
Sur ce point, il me semble qu'en réalité, les policiers, mais comme il faut le reconnaître, la majeure partie de l'opinion publique française, ont encore trop tendance, et c'est un travail pédagogique majeur à poursuivre, et c'est en cela d'ailleurs que les États généraux de la justice pourraient nous y aider, ont trop tendance à considérer qu'une faute égale prison. C'est évidemment faux, c'est une des raisons fondamentales pour laquelle nous avons beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé et proposé une nouvelle échelle peine dans la loi du 23 mars 2019, elle est encore récente, alors il faut aussi le temps que la compréhension se fasse, et qui avait des principes de base extrêmement simples. Premier principe, aucune peine de prison de très courte durée. Une peine de prison d'un mois est interdite, une peine de moins de 6 mois ou de 6 mois ne se fait que de manière très exceptionnelle, mais en même temps, parce que aussi les Français ont besoin de comprendre que la justice a une action effective, dès lors que la faute est suffisamment grave pour entraîner une peine de prison suffisamment longue, au-delà d'un an, la prison s'exécute. Entre les deux, la prison s'exécute. Il y a eu trop de difficultés de compréhension d'un certain nombre de peines de prison de 2 ans sans un jour derrière les barreaux. Et entre les deux, il y a dans cette nouvelle échelle de peine tout un axe fondamental de ce qui peut être une meilleure réponse pénale. Et la meilleure réponse pénale, ça peut être un travail d'intérêt général quand il est bien compris. La meilleure réponse pénale, ça peut être le placement sous surveillance électronique et ainsi de suite. Nous devons absolument faire comprendre à nos concitoyens que la prison n'est pas le nec plus ultra de toutes les réponses pénales, à condition que la réponse pénale soit effective. Nous avons, c'est vrai, encore trop de situations pénales sans réponse. C'est tout le problème nouveau d'ailleurs de la place du rappel à la loi, ou de ce genre de dispositions qui sont considérées par nos concitoyens, à tort ou à raison, comme n'étant pas de vraies réponses.
Et ce sera le mot de la fin, une demi-heure pour débattre de la justice en France, des États généraux, voulu par Emmanuel Macron. Un rendez-vous qui devrait associer magistrats, je le disais, greffiers, personnel pénitentiaire, policiers, avocats, notaires, citoyens, élus. Et qui devrait avoir lieu en septembre prochain. Merci à tous les trois. Isabelle Gorce, première présidente de la Cour d'appel de Bordeaux, vous représentiez la Conférence nationale des premiers présidents de Cour d'appel. Katia Dubreuil, présidente du syndicat de la magistrature. Et puis Didier Paris, député de la Côte d'Or, député LREM, membre de la Commission des lois. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. Réalisation ce soir, Laurent Philippot. Coordination, Florence Pons. Rédaction en chef, Jacques Alix. Demain, un nouveau débat sur Radio France Internationale. Est-il vraiment possible de protéger un chef d'État ? un débat qui sera animé par Philippe Le Caplain. Dans quelques secondes, un nouveau journal sur la radio du Monde. RFI, chez vous.